Bonjour et bienvenue dans On Backstage, une émission spéciale sur les 35 ans de Festival de Tours. Dans cette émission, vous allez entendre des interviews de l'équipe Festival, du rappeur Demi-Portion, des reportages avant et pendant le festival, pour célébrer cette 35e édition. On écoute.
Ce matin, nous sommes arrivés à Metz, au bord de l'étang de Tours, dans le sud de la France. Le cadre est calme, quelques bateaux au loin, un peu de vent et une moyenne d'âge très élevée. Nous avons été accueillis par Fanny, chargée de communication au Festival de Tours. Elle nous a présenté le lieu du festival. C'était un petit parking au bord de l'eau.
Bienvenue, bonjour. Je m'occupe de la communication au Festival de Tours. Donc mon travail à moi, c'est de faire en sorte que les gens viennent. qu'on ait le plus de public possible, qu'on parle de nous dans les médias, dans la presse, et puis que le festival soit une réussite. Je vous fais faire un petit tour de site, ça vous dit?
Oui.
Vous craignez pas trop pour vos têtes parce que ça cogne fort là. C'est la meilleure heure.
On voit des voitures, un parking, je vois la scène devant moi, je vois des gens qui sont en train de préparer la scène. Je vois des gens qui travaillent.
Ouais. T'as déjà été en festival, toi?
Non.
Jamais?
Jamais.
Ça va être ton premier festival?
Oui.
T'as quel âge?
17.
T'as 17?
Oui.
Je crois que moi, pareil, c'était 16 ou 17 ans, mon premier festival.
Là, c'est le montage de la scène qui est en cours. Là, ce ne sont pas nos bénévoles qui sont à pied d'œuvre, mais vraiment des professionnels. Là, c'est la partie très technique. Et en fait, pour monter tout ça, sans même mettre un seul artiste sur scène, ça, chaque jour, ça coûte 150 000 euros.
150 000 euros.
Voilà.
Ouais, c'est cher.
C'est très, très, très cher.
Un SMIC.
Un très, très gros SMIC. Il faudrait calculer combien d'années de SMIC.
Ouais, c'est ça.
C'est pour nous la partie qui est la plus importante, le poste budgétaire le plus important du festival. C'est le montage de toute l'infrastructure. Et là, quand je dis 150 000 euros, on n'a pas les artistes encore.
Avec les artistes, c'est combien?
Alors, le budget du festival, c'est quasiment 1 million d'euros. Alors, heureusement, on est aidé. On a des subventions de l'État. Sinon, on n'y arriverait pas. Voilà. C'est grâce aux subventions de l'État, nos recettes de billetterie, qu'on peut faire ce projet-là.
C'est grâce aux impôts, vous voulez dire?
En partie, oui. Tu vois, comme quoi, c'est utile de payer ses impôts. On contribue à ce genre d'événement. Mais oui, c'est l'État, la région, le département, évidemment la ville de Metz. Et après, on a aussi des partenaires privés. On a des entreprises qui nous donnent de l'argent pour nous aider. On appelle ça des mécènes. Ici, on peut accueillir 3000 personnes par soir. On pourrait accueillir beaucoup plus, mais nous, on souhaite rester avec cette jauge-là. On ne veut pas être dans un festival où tout le monde est à touche-touche.
Et vous avez une estimation du nombre de personnes qui vont être là le jour J?
Eh bien, on a encore 24 heures pour faire changer les scores. Mais oui, là, on regarde les pointages de la billetterie tous les jours. Donc là, on sait très précisément, on actualise à l'instant T. Donc on attend, on espère pour le port de Metz, les 7000 personnes, ça serait super.
Pour l'instant, il y a surtout des voitures garées. Difficile d'imaginer qu'un festival va s'y tenir.
On est à 24 heures, il y a un truc qui se passe, il y a du stress, beaucoup, il y a la course contre la montre. Mais en fait, on adore ça. On est sursollicité, des questions, il faut que tout soit prêt. Et le but, c'est qu'on ouvre les portes à 19h demain et place à la fête.
Ah ouais, il y a du monde de ouf.
C'est vrai,
ça dit quoi le festival de tout si tout le monde met la main vers le ciel comme ça là? Quand je dis tout le monde, c'est jusqu'au fond là-bas. Jusqu'à la plage, les deux mains pour voir. Ah oui!
On continue le petit tour?
Oui.
Donc là, on a les différents Algeco de la production. Il y a l'Algeco production, là, si vous avez besoin, moi, je suis là. L'Algeco de la régie. Ensuite, l'Algeco régie artiste. Derrière ce petit carré, bientôt, vous n'auriez plus accès, on ne verra presque plus, c'est les loges.
Nous avons ensuite découvert la salle où nous allons travailler pendant tout le projet. On s'est lancé dans quelques jeux d'écriture pour préparer notre émission de radio, puis on a construit des questions en vue d'une interview.
Bonjour, je suis Monique Tessier, je suis la présidente actuellement de l'association qui porte le Festival de Tours. J'étais membre fondateur de cet événement qui a 35 ans. Voilà, et je fais également la programmation artistique.
Alors bonjour Dominique, on est très heureux de vous avoir avec nous, merci beaucoup d'être là. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander si vous pouvez vous présenter et nous expliquer quel est votre métier.
Ben moi je suis artiste plasticien, j'ai longtemps travaillé dans le décor, dans la scénographie, c'est ce qui m'a amené à rencontrer dans ma vie le Festival de Tau.
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire aussi un peu c'est quoi le métier d'attaché de presse ?
Mon métier consiste à faire en sorte que les festivals pour lesquels je travaille soient annoncés en amont dans les médias, que ce soit en presse écrite, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit sur les médias sociaux qui sont majoritairement consommés par le public auquel les festivals s'adressent, donc les audiences les plus jeunes. Ça consiste à mettre en lien les organisateurs et les médias qui sont demandeurs d'interviews. Pour les médias qui ne sont pas spontanément demandeurs d'interviews, ça consiste à essayer de leur suggérer l'idée.
Mais est-ce que vous êtes chaud ?
L'après-midi, après le repas, nous avons rencontré Anaïs de la LPO qui nous a parlé de son travail de terrain et des enjeux écologiques autour de l'étang.
Peux-tu nous décrire le paysage de Metz de point de vue professionnel ?
Du coup, Metz, on est au bord de la lagune de Tau. Les scientifiques utilisent ce terme parce que du coup, on n'est pas sur un étang. Scientifiquement, un étang, c'est une étendue d'eau fermée et d'eau douce. Et là, si tu vas goûter l'eau, tu verras qu'elle est loin d'être douce. Elle est plutôt très salée en ce moment. En fait, on dit qu'une lagune est une étendue d'eau semi-fermée, fermée par un lido. Donc en face de nous, on a le lido de Sète, qui ferme la lagune de Tau. Mais ce lido est entrouvert avec des embouchures qu'on appelle ici des gros. Et donc ces gros permettent à la lagune de communiquer avec la mer. Donc on a de l'eau salée, et de l'autre côté, côté Metz, Bouzigues, Marseillan, etc., on a des petits ruisseaux, voire des grands ruisseaux à la Veine, à Balaruc, qui viennent déverser de l'eau douce dans la lagune. Donc ça n'a rien à voir à un étang scientifiquement. Après, c'est le terme employé par les locaux depuis des générations. Il y a une source de la langue occitane, etc.
Est-ce que vous êtes chaud de chanter avec nous ce soir à Metz ?
Comment t'y prends-tu pour faire de la sensibilisation et de la médiation ?
Eh bien, ça dépend beaucoup de mon public et je suis convaincue, moi, que ça passera de plus en plus par des approches sensibles et artistiques. Le climat nous a bien démontré que toute l'action, toute l'éducation à l'environnement qui se fait depuis un petit moment maintenant, eh bien, ça a démontré que ça marche pas. Et du coup, moi, je suis convaincue qu'il faut revenir sur des choses très émotionnelles, aller sur le sensible, pourquoi nous, on aime tant la mer, parce qu'il y a l'odeur, parce qu'il y a les sons, parce que j'adore être là, parce qu'il y a quelque chose qui me fait vibrer. Et du coup, j'essaye de mettre ça dans mes animations de plus en plus. Parce que je suis convaincue qu'on a oublié ça depuis longtemps dans l'éducation à l'environnement, mais en fait, c'est important.
Et vous êtes à bord, sourire en papillote, attachez vos ceintures, bande de papillons, c'est de l'amour qu'on dégoupille. Ah, appelle tes copains et ta copine. Ah, artiste.
Tu sais, c'est pas difficile.
On a choisi ce lieu parce que pour sa beauté, la proximité de l'étang, la lagune, et donc voilà. Et donc, au vu de tout ça, ces beaux endroits, on a eu vraiment envie de créer un événement, qui était un événement musical qui au départ était sur un concept très simple, c'est inviter des artistes du monde entier, c'est vraiment l'époque de la world music, tout en gardant l'authenticité avec les ostréiculteurs, hein, puisqu'en fait c'est ici un gros site de production, et aussi les producteurs de vin. Donc en fait pour créer une sorte de, voilà, de mix musique, coquillage et vin blanc.
Et qu'est-ce qui a amené alors cet aspect écologique du festival ?
Alors très tôt, hein, en fait, là maintenant tout le monde en parle, mais nous il y a à peu près 25 ans, on a commencé à travailler là-dessus, enfin à travailler, c'est-à-dire on a été je crois les premiers à faire les consignes de verre pour qu'il n'y ait plus de gobelets qui partent dans l'eau. Voilà, donc ça c'est la première chose, après un mini toilette sèche, on est allé petit à petit. Mais ce qui nous a incité à être vraiment faire une manifestation écologique, c'est la proximité de cet étang qui est quand même classé Natura 2000, qui est à respecter. Et voilà. Donc de ce point de vue-là, on a toujours été attentif à ça.
On continue ! On continue ! À vous !
L'engagement depuis longtemps, il y a un côté artistique, c'est clair, mais éducatif et social, c'est aussi très important pour moi. Et dans le travail, et dans les préoccupations écologiques, sur les œuvres, si je travaille avec le vent, avec des choses comme ça, c'est pas complètement l'effet du hasard. Et j'ai tout le temps lié mon métier à des interventions en milieu scolaire, en milieu plus difficile.
Justement, en parlant de social, je voudrais vous demander par rapport au festival de Tau, vous, en quoi vous êtes impliqué dans ce festival ?
Pendant un bon moment, on a travaillé avec la MLI. C'est la mission locale d'insertion. Ici à Metz, j'imaginais un projet, alors des fois sur l'eau, des fois plus ou moins grand. Et puis du coup, on le réalisait avec la MLI. Et du coup, c'était des chantiers d'été festifs, productifs et super.
La ville est unique comme son MC, donc 2 x 7, impossible. Chaque seconde, la chance de ta vie, chaque seconde...
En ce moment, on est sur le montage du festival, qui est sur 3 jours. Tous les décors qu'on a préparés en amont, en atelier, on les monte aujourd'hui et hier aussi sur l'ensemble du site.
On a réparé les anciens décors, on les a retapés. Il y avait des tissus qui étaient abîmés, qu'on a dû changer. On a aussi utilisé beaucoup de scie sauteuse. Voilà. On a réparé aussi les bulles lumineuses. Le but aussi, c'est de nous apprendre à utiliser des matériaux, savoir si dans tout ce qu'on fait, il y a quelque chose qui nous plaît, qui pourrait nous diriger vers un métier pour notre avenir.
Quelles compétences vous en retirez de ce chantier ?
Les filles.
Du coup, se débrouiller seule, donc savoir utiliser les visseuses.
Bah, c'est cool d'avoir découvert des nouveaux métiers aussi et d'avoir aidé tout le monde. Et voilà.
Combien de temps prend l'installation du festival ?
3 jours. 3 jours et demi, ouais, c'est ça. Juste l'installation. Après, les préparations, la globalité du festival, c'est en 3 semaines cette année. Et la deuxième phase, ça sera le démontage, qui sera lundi et mardi de la semaine prochaine.
Est-ce que le chantier est engagé au niveau écologique ?
Avec le festival, on s'engage réellement à faire du recyclage de décors, c'est-à-dire qu'on ne jette quasiment jamais rien, en fait. On retransforme tout ce qui a déjà été fabriqué. On n'achète finalement que le strict nécessaire et en général c'est du bois très recyclable, c'est facilement transformable. On a même fait des décors l'an dernier je crois, non il y a 2 ans, sans clous ni vis et sans colle bien sûr. L'idée c'était de pouvoir démonter, remonter les choses sans besoin d'énergie supplémentaire que ce que on produit, que quand on produit l'objet, quoi.
Là c'est au complet l'équipe, donc vous êtes les 2 seules filles
Ça dépend des années. En général, on est sur une mixité, on essaie. Après, mine de rien, les outils, le travail du bois est peut-être plus encore, enfin, est encore accessible, plus facilement accessible, pardon, aux garçons qu'aux filles. Maintenant, depuis que j'ai commencé, ça fait à peu près une quinzaine d'années, quoi. En fait, ça a déjà évolué. En fait, j'ai beaucoup plus de filles qui se mobilisent sur ce genre de projet, quoi. Pour qui ça devient des métiers, quoi, en fait, aussi. Voilà.
Et est-ce que tu peux te présenter ?
Donc en fait, j'ai repris donc le chantier en 2019. On a développé tout ce qui était décoration autour de l'OSB, donc uniquement du bois et voilà. Et moi, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Cultures Urbaines Sans Frontières. Je suis impliquée dans l'éducation populaire depuis pas mal d'années maintenant. Et l'idée, c'est que j'aime transmettre ce que je sais faire.
Lancement de la 35e édition
du Festival de Tau.
Festival de Tau.
Happy birthday.
Est-ce que vous connaissez le festival de Tau ?
El festival de la Laguna de Tau.
Happy birthday to you.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
C'est quoi votre meilleur souvenir au festival ?
C'est sûrement d'y aller entre amis. On se relâche, on s'amuse.
Happy birthday to you. Festival de Tau.
Ah bon ? Un festival de Tau.
Festival de Tau.
Festival de Tau.
Les amis, je suis très très heureux de présenter cette 35e édition. Déjà, par applaudissement, est-ce qu'on a des mésois ? Ok, vous êtes 4 apparemment, ça fait plaisir. Donc, bienvenue à toutes et tous. Vous le savez, le Festival de Tau, c'est un festival qui est né en 91 avec un pari, faire un festival à Metz. Et ça fait 35 ans que ça dure, donc je pense qu'on peut faire un maximum de bruit pour Metz qui nous accueille, pour le Festival de Tau et pour tous les artistes qu'on défile ici ce soir.
Chaque festival a un projet bien particulier, une histoire qui est singulière, un historique. On a des festivals qui sont nés comme ici, d'une idée d'une bande de potes, un soir un peu arrosé, et puis l'idée se fait parce que c'est des foufous. Et petit à petit, au fil du temps, bah, ça devient des festivals qui se professionnalisent, et leurs équipes se professionnalisent aussi. Donc c'est des choses qui sont super intéressantes. Moi j'ai tendance à travailler que pour des festivals associatifs, parce que ça implique un certain état d'esprit, ça implique une transparence aussi sur les volets financiers, la présence de bénévoles qui est fondamentale et sans lesquels rien ne pourrait se faire. Et ça implique surtout que tout bénéfice, c'est-à-dire quand il y a de l'argent en plus, ce qui est de plus en plus rare mais ce qui arrive encore parfois, ce soit obligatoirement réinjecté dans le festival pour les années qui suivent. Donc c'est un format que je trouve sain pour ce qui concerne la culture particulièrement.
Et justement, toi, ce festival, qu'est-ce qui retient ton attention ? Est-ce qui te plaît particulièrement ?
Moi, perso, me marque déjà, c'est le cadre, c'est le lieu. C'est quand même magnifique, j'imagine, pour les artistes qui sont sur scène, de voir l'étang au loin. Ensuite, le fait d'avoir une programmation qui est plutôt centrée musique du monde, même si ça s'ouvre, parce que proposer des soirées rap, comme ça a été fait l'année dernière, comme c'est fait cette année, c'est l'esthétique musicale qui intéresse le plus les plus jeunes en ce moment. Donc, aller les chercher par ce biais-là, c'est potentiellement, on l'espère, les amener aussi à s'intéresser à d'autres esthétiques musicales, d'autant qu'elles nourrissent le rap, qui est une espèce d'agrégateur de styles musicaux depuis le début. Hein, le propos du hip-hop, à la base, le sample, ça allait quand même piocher partout. Donc, il n'y a rien d'antinomique, au final, je trouve. Et puis, défendre les musiques du monde. Alors, quand bien même, ce n'est pas forcément le propos du festival, ce n'est pas forcément le propos de l'association, mais moi, à titre personnel, ça me marque, et c'est ce que je dis aux médias parisiens. Faire des musiques du monde dans une région qui vote majoritairement Rassemblement National, eh ben, je dis chapeau, et je dis continuer, parce que c'est super important. Voilà, c'est une résistance par la culture.
J'écoute en boucle de la musique à certains moments de ma vie. Et quand je la réécoute plus tard, ça me rappelle les moments où je l'écoutais sans fin. Et comment je me sentais à ce moment-là. Certains artistes utilisent la musique pour rediffuser un message. Que ce soit la vie en quartier, que certains n'ont pas choisi, ou simplement de la déconnade. Par exemple, pour parler de la vie de quartier, ça rappelle à certains ce qu'ils ont choisi de faire pour survivre à la précarité. Donc la musique, ça leur permet de raconter leur quotidien et de me rappeler le mien à certains moments de ma vie. La musique, c'est engagé.
On est des milliards d'êtres humains à se poser les mêmes questions. Dès qu'on a une réponse, on croit qu'Internet a raison. Philosophie, ça sert à quoi sur le terrain? C'est pas la même, non? J'y vois pas de génie dans ce décor d'Aladin. On a voulu se balader à la collée dans Titama. C'est aussi mieux qu'une vitamine, ça donne la force.
Et ça maintient.
On fait du rap, on fait des rimes, la fait de l'eau des écrivains. La guerre a fait des morts qu'on ne voit pas, mes écrivains. Vas-y, lève ton verre, ma plume est un revolver. On ne peut pas changer les camps, et seulement avec un fond. Entre la joie et la haine, on attend que l'amour nous aide. Une pensée à ces familles qui ne veulent qu'une bonne nouvelle. Parce que je chante la vie d'un amour passionnel. J'entends rien.
Le village des rencontres, en deux mots, tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, le village des rencontres, c'est un endroit en plein cœur du site du festival où on peut venir un petit peu se questionner, s'amuser sur les thématiques écologiques en lien avec notre territoire. Et cette année, on a un thème, on parle des plantes comestibles, les plantes qu'on peut manger, celles qu'on cueille dans la nature, celles qu'on fait pousser.
Donc là, on a autour de nous le village associatif. On peut commencer par là, par exemple, la Capéchade. Bonsoir. Alors, on fait une émission radio pour les 35 ans du festival et on voulait savoir si vous étiez d'accord pour qu'on vous pose quelques questions, notamment sur votre association. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit ? On peut se tutoyer, comment tu t'appelles ?
Moi c'est Laura.
Bonsoir Laura, moi c'est Iliane, enchantée. Déjà première petite question, en quoi consiste l'association ?
Alors l'association c'est la Capéchade, on a un tiers-lieu alimentaire à Marseille. Donc c'est un collectif citoyen qui répond à des problèmes de précarité alimentaire avec la valorisation du circuit court, du local, et apprendre des techniques de cuisine à des personnes qui ne savent pas forcément comment cuisiner les légumes qu'on a ici. Alors c'est la première fois qu'on est invité au Festival de Tau, c'est super sympa, puis on rencontre plein de gens. Donc ça permet de se faire connaître. On a une épicerie participative, on mène des conférences aussi sur le projet qu'on anime ce soir.
Est-ce que tu peux, en deux, trois mots, nous parler du projet que vous avez, que vous menez là ?
Alors là, on a un projet assez particulier, c'est la valorisation alimentaire d'espèces exotiques envahissantes. Donc on est en lien avec des gestionnaires d'espaces naturels, aussi les services techniques de la ville, pour valoriser ces ressources qui aujourd'hui sont considérées comme des déchets, s'envoyer à l'incinération, au compost, alors que certains sont comestibles.
Moi j'ai une petite question, est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de
D'espèces.
Alors, je peux vous parler, par exemple, de la griffe de sorcière. La griffe de sorcière, c'est une plante qu'on trouve sur la plage qui fait des grands tapis végétaux. Ça a été planté parce que ça fait des très belles fleurs. Puis on s'imagine que ça maintient les dunes et elle pousse très très bien. C'est pour ça qu'on l'a plantée, c'est elle pousse tellement bien que du coup, elle fera plein de fleurs et puis ça va ornementer la plage. Mais si ça se pousse bien, c'est parce que c'est une espèce exotique envahissante. Et elle étouffe la biodiversité locale. Et c'est comme ça qu'on arrive à des zones plus de biodiversité. Et ça modifie les sols, ça empêche certains pollinisateurs de trouver des ressources. Et bien ça, c'est arraché tous les ans par les services techniques. Donc ça fait des tonnes et des tonnes de griffes de sorcières gâchées. Nous, on propose de faire avec les feuilles de l'infusion ou des pickles et avec les fruits du chutney ou de la confiture.
La fleur repoussée dans le béton, oh.
Oui, alors bonjour, Iliane, enchantée. Donc on est avec Delphine et Stéphanie qui sont bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans le festival ?
On est bénévole, moi personnellement, dans la commission du bar. C'est la quatrième saison.
Voilà, moi, c'est la deuxième année, donc je suis bénévole et je suis ravie d'être là cette année. Bon, et donc c'est agréable d'être au bar parce qu'on est en contact avec les festivaliers, on a la scène juste à côté de nous, donc ça c'est super cool. Et il y a une bonne ambiance, il faut être dynamique, réactif, puisque l'objectif c'est de servir le plus vite possible. Et quand il y a du monde qui arrive, souvent au début du concert ou entre les concerts, là il faut être hyper efficace. Et moi j'adore ça, parce que je suis un peu speed et ça me plaît.
Oui, ça donne de l'énergie en fait, c'est assez speed et fatigant, mais en même temps...
On est debout en plein soleil, je t'ai coupé.
C'est ça. Ça c'est le début, mais en fait c'est énergisant aussi.
Mon frère, mon ami, demi, portion, s'il vous plaît.
Et voilà, et moi ce que j'aime, c'est l'esprit festif. Et pour moi, c'est important que ces festivals existent. Et voilà, c'est pour ça que je fais du bénévolat, pour qu'ils puissent continuer à persister.
Oxmo Puccino.
Bon, ceux qui voient mal partout sont maléfiques. Donne-nous un mic et c'est devenu magnifique. Dis-leur si t'es malade, on a dansé à mort, les âmes sont tortes comme ceux qui étaient pas là. À la belle étoile, rendez-vous à la fraîche, petit-déj, tartine au beurre de Marrakech. Tous pour un, chacun pour l'autre, la scène notre terrain, ce morceau le vôtre.
Puisqu'il faut dire merci au début et à la fin, alors merci d'être là. Et donc on a la chance de te rencontrer, Rachid, on est hyper content. Tout d'abord, on voulait te demander comment t'as commencé le rap et surtout pourquoi.
Alors j'ai commencé le rap en 96, ma première scène. C'était par le biais d'un atelier d'écriture qu'il y avait à la ZUP, à l'île de Tours. Il y avait un groupe du quartier qui s'appelait Les Disciples du Move. C'était le groupe connu. Et on a créé Les Demi-Portions, donc on était 6 à l'époque. Et on avait de 9 à 14 ans. Moi j'avais 12 ans. Et on a fait beaucoup de scènes, donc il y avait une salle qui s'appelait La Passerelle, qui faisait jouer Yann Tiersen, M, Massila Sound System, à l'époque il y avait la FF de Baldeneg. Et c'est comme ça que j'ai un peu appris la musique, donc j'ai fait beaucoup de concerts de 96 à mon premier album, jusqu'en 2011 où j'ai sorti mon premier album. Sinon ça fait longtemps.
Comment t'as fait pour percer dans le rap ?
Ben en fait j'ai jamais trop percé, tu vois, dans la musique, j'ai toujours fait ça par passion. Donc depuis tout petit on essaye de faire notre musique de set, de l'exporter. Et on va dire que ça a plus ou moins marché ou fait écho dans les 2015, 2014, mais on n'avait pas de plan de carrière. C'était MySpace, c'était les réseaux sociaux, on essayait de partager, de se connecter avec du monde. Mais on n'avait pas d'objectif. Pour moi, à l'époque, c'était insensé de sortir un disque, c'était trop compliqué. Donc on charbonnait, mais voilà, c'est la passion qui m'a poussé à continuer, on va dire.
Quand t'écris, comment te vient l'inspiration et est-ce qu'il t'arrive parfois d'être en panne d'inspiration ?
C'est au jour le jour, en vrai, c'est... Je force pas l'écriture. Dès que ça arrive, on essaie d'écrire. J'écris beaucoup la nuit, selon la musique qui me parle, selon l'instru que je reçois, selon les mélodies. J'écris beaucoup, en fait. Je peux écrire deux mesures comme je peux écrire un couplet. Et l'inspi, voilà, je force pas le truc, j'essaie d'apprendre au jour le jour, de voir les gens, de me nourrir de ce que je vois, ouais. Ce qui me donne envie d'écrire. Ouais, avec des copains, en ce moment, on se fait des petits séminaires. Ça veut dire on part entre nous avec un micro, on se prend un petit Airbnb, on retourne un peu les meubles, on se pose et on fait du son pendant 4-5 jours. Ou maquette à l'intérieur, ou ça va beaucoup mieux pour écrire. Ouais. Le fait que je sois pas solo, le fait d'avoir le recul des autres copains qui te disent comment améliorer le truc, ouais, ça va beaucoup plus vite que quand t'es seul, on va dire.
C'est plutôt du rap à l'ancienne, non?
Ouais, on va dire ça. On va dire que c'est du rap à l'ancienne, ouais. Remis au nouveau dans le futur, mais c'est du rap à l'ancienne.
Est-ce que tu comptes faire un son avec Jules?
On connaît bien, on a déjà passé du temps avec lui, beaucoup parlé avec lui. Puis j'aime beaucoup ce qu'il fait, du fait qu'il fédère et qu'il fait les choses sans... Voilà, c'est un charbonneur. Donc il pourrait s'arrêter de faire de la musique. Et c'est pas le genre de rappeur à tirer les jeunes vers le bas, donc je trouve que ça va, il fait son truc. Que t'aimes ou pas. Mais après, featuring, non, j'ai pas eu... Non, c'est pas prévu, je veux dire.
Vous touchez combien par album, sans être indiscret?
En fait, l'album, combien tu peux toucher, c'est déjà un investissement. Ça veut dire que tu dois louer des studios, sortir pas mal d'argent avant de le construire. Donc, studio, les prods, c'est-à-dire les instrus, les featuring, la pochette, les clips. Pour faire un petit clip comme je fais moi, ça coûte 4000 euros à peu près. Après, tu peux te faire un clip pour 500 euros, pour 1000 euros. Mais on a quand même des clips assez freestyle, on va dire. Après, la production, c'est un coût. Donc, payer tes disques, tes vinyles, payer la SDRM. Donc, tu prends un peu tous ces chiffres. Et ensuite, dès que tu commences à être rentable, c'est dès que tu vends 1000 disques, tu peux gagner un peu d'argent. Ouais. Après, je sais pas combien que tu gagnes 10 000 ou 20 000 euros. Nous, on est heureux. On est heureux, on arrive à vivre.
On gagne plus d'argent quand un album il perce directement ou quand un album il perce petit à petit? On va être sur la durée, t'as vu?
Ben, la durée, c'est le mieux. En vrai. Être stable et durer, je pense que dans ce milieu, c'est le meilleur choix. Quand tu dures longtemps, c'est quand un artiste est là depuis un petit moment, ben, c'est que t'as quand même réussi à fonder quelque chose, tu vois. T'as bâti un petit truc.
C'est quoi le son que t'as kiffé le plus? En mode, tu l'as écrit, tu étais heureux, tu le faisais?
Il y en a plein, j'ai fait tellement de sons. Dragon Rush, c'est un morceau sur Dragon Ball. J'étais jeune, j'ai pris la tête.
C'est une question un peu privée, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Parce qu'il y a certains rappeurs qui ont fait de la prison. Est-ce que vous avez fait de la prison?
J'ai fait beaucoup de concerts en prison, d'ateliers, mais j'ai jamais fait de... Quoi, on n'est pas à l'abri, Dieu merci, mais j'ai jamais fait de... J'ai jamais été incarcéré, non. Je suis le seul garçon d'une famille, j'ai trois petites sœurs, j'ai perdu mon père en 99, donc il fallait un peu gérer la maison, la maman qui était seule, voilà. Donc j'ai plus joué le rôle du grand frère dans le silence et dans le côté sombre, on va dire, mais plus essayer de lever la tête que faire le contraire de ce que je voyais au quartier. Ouais. La musique m'a beaucoup aidé en vrai, dans les voyages, dans les rencontres, d'être une ouverture d'esprit. Les rencontres et mon quartier aussi, l'île de Taule, du fait qu'on était mélangé italien, portugais. Le mélange des cultures, ça a beaucoup aidé à être ouvert et pas se sentir seul. Et on s'est mélangé facilement, contrairement à aujourd'hui. Dieu merci, les quartiers, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, je suis très content d'être né dans les quartiers. On est loin des clichés de ce qu'on entend tous les jours, tu vois, c'est juste ça. À l'époque, on mettait pas le point sur le quartier, violence. Patin, couffin.
Je voulais te demander, tu me donnes quoi comme conseil pour me lancer dans le rap?
Ben, faut que tu prennes pas la tête, tu fais ce que t'aimes. Tu prends pas la tête. Faut pas que t'aies trop d'exemples, faut pas que tu te mettes la pression sur celui qui marche bien, ceux qui marchent pas. Faut que tu fasses ton truc et au moins tu seras pas déçu. Après, l'entourage joue un rôle clé, c'est être bien entouré. Des gens qui te disent quand c'est pas bien, des gens qui te disent quand c'est bien. Et c'est tout. Après, tu peux. Aujourd'hui, la musique est tellement vaste, tu peux piocher sur une palette, elle est tellement large que tu peux tout faire. Tout est ouvert à toi, en toute sincérité. Mais te prends pas la tête si ça marche, si ça marche pas. Faut pas trop se mettre dans ça au début. Faut juste apprendre, connaître la musique, connaître le hip-hop. C'est une grande... À la base, c'est une culture, il y a plein de disciplines. Le rap, le break, le graph, le DJ, le beatbox. Il y en a 5. Dès que tu vas un peu t'aventurer dans ce monde-là, ça va t'intéresser.
Un rappeur que j'aime beaucoup, Euphonic, proclamait dans une de ses musiques que son rap est une caresse ou un poing dans la gueule. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pertinent que cette affirmation pour décrire la musique dans toute son histoire, dans tout son éclat, dans toutes ses cultures et surtout dans tout son engagement. La musique aussi d'une façon bien singulière entre cette caresse et ce coup de poing. Personnellement, j'ai toujours préféré me prendre un bon coup de poing dans la gueule. Les caresses, elles, je les juge trompeuses. Et c'est ce que j'attends de ma musique, qu'elle me frappe au cœur. Beaucoup de musiques sont des cris de douleur. Le rap est à ce titre le genre musical de l'expression de la souffrance. Pas étonnant que cette façon de rythmer la poésie naisse dans la précarité. En fait, quand j'y réfléchis, je me dis que la musique est une promesse, celle de dire les réalités dures comme du rock, une façon de nous faire retrouver notre identité commune. Ces dures réalités sont celles des travailleuses et des travailleurs ouvriers, celles de ceux qui vivent en exil, ou bien de ceux dont le dernier repas sera une bière sale avant d'aller mourir dans les grands boulevards. Ces dures réalités, elles s'observent le soir, lorsqu'au coin des ruelles sombres, on aperçoit une lumière chaude à travers une fenêtre qui cache le quotidien d'une vieille femme oubliée. Les dures réalités, on les trouve sur les terrains des guerres, dans la violence, dans des ghettos, dans des pierres, ou dans les yeux des courageuses mères. Bon, bien entendu, le rap, tout comme la musique en général, ne se réduisent pas à l'expression des dures réalités. C'est aussi exprimer et faire ressentir l'espoir, l'euphorie, la liberté, l'amour. Moi, j'aime la musique en ce qu'elle est engagée sur tous les points. Elle s'engage à nous faire traverser l'expérience du monde.
Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne de l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux les amis. Sois meilleur si tu veux. La zik est magnifique.
Cette émission a été réalisée par Iliane, Dina, Carmen, Jules, Samir et Adem. Avec la participation spéciale de Audrey et Hervé. On remercie Fanny et toute l'équipe du festival de nous avoir accueillis. Un grand merci à Demi Portion et à son manager Mehdi pour nous avoir accordé de leur temps. Merci à Manon et Clara qui ont permis que cette émission existe.
Chante la vie et oui c'est magnifique.
Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis.
Sois meilleur.
Sois meilleur si tu veux des amis.
Si tu veux des amis.
Chante la vie et oui c'est magnifique.
Chante la vie.
Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis.
Sois meilleur.
Sois meilleur si tu veux des amis.
Pour me copier coller faut plus qu'un logiciel. Pas couvert mais j'aurai ma part de ciel.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?